Nous voici dans la seconde partie du magazine au Capi Service. Quel est l'impact de la pollution de l'air dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo? Nous en parlons avec le professeur Jean-Pierre Moulumba. Il est coordonnateur adjoint des Task Force Santé et Environnement. Et il a une expertise en conseil et recherche en qualité de l'air et changement climatique. Professeur, bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous au Capi Service.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Chers auditeurs, auditrices, si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-506-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct par SMS. Vos commentaires sont les bienvenus au numéro 099-506-9941. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui anime ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Pierre Diassinois réalise et assure la prise de son de ces rendez-vous et Jonathan Chimanga est à l'édition multimédia. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Capi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Capi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Quel est l'impact de la pollution de l'air dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo? Nous en parlons dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service avec le professeur Jean-Pierre Moulumba. Nous rappelons qu'il est le coordonnateur adjoint des Task Force Santé et Environnement et il a une expertise en conseil et recherche en qualité de l'air et changement climatique. Si ce sujet vous intéresse, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-506-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct. L'indice qualité de l'air à Kinshasa, capitale de la RDC, varie généralement entre 50 et 150, ce qui correspond à une qualité malsaine pour les groupes sensibles, vulnérables. Lors des pics, par exemple en octobre 2025, l'indice des qualités de l'air a dépassé 200, atteignant un niveau malsain pour toute la population. Quels sont les principaux facteurs qui altèrent la qualité de l'air dans les zones urbaines de la RDC? Quelles sont les conséquences de cette pollution de l'air sur la santé humaine? Nous abordons ces deux questions principales dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Professeur, on va commencer par tabler sur les aspects définitionnels de ce qu'on entend par les concepts composés pollution de l'air.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci de m'avoir invité à cette émission. Oui, lorsqu'on parle de pollution de l'air, on fait allusion à l'introduction, n'est-ce pas, dans l'air ambiant, des particules ou des substances qui sont nocives ou qui sont étranges à la composition normale de l'air. Ça, c'est la pollution de l'air.
Quels sont les quelques facteurs favorisant la pollution de l'air?
Évidemment, la pollution de l'air arrive au moment où il y a des activités naturelles qui se font et des activités anthropiques, donc les activités de l'homme. Et ces activités qui génèrent des substances chimiques ou physiques qui altèrent la qualité, donc la composition naturelle de l'air.
Professeur Moulumba, vous avez réalisé une enquête dans la commune d'Engaliema sur l'altération de la qualité de l'air. Parlez-nous un peu de ces projets et des résultats auxquels vous avez abouti.
Merci beaucoup pour cette question. En tant que spécialiste de la qualité de l'air, nous avons eu cette expérience à l'étranger, en Afrique du Sud où nous avons évolué, en tant que chercheur, en tant que professeur, en tant que consultant en cette matière. Arrivé au pays en 2022, j'étais vraiment choqué de voir que la qualité de l'air à partir de l'aéroport d'Ndjili n'était pas vraiment au bon point.
Viable.
Alors, lorsqu'on arrive, à l'arrivée, vous sentez que vous êtes un peu étouffé et tout ça. Mais lorsque je passais, parce que je suis professeur à l'UPEN, je l'ai dit en passant, et je passe souvent par Delvaux, et j'ai vu qu'à Delvaux, il y avait une situation qui n'était pas vraiment acceptable. Et bon, je sais pas comment, quelle magie, Dieu a fait que je puisse rencontrer professeur Sikolo Simon Asseline, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa. Je l'ai rencontré, on a parlé, je lui ai dit que voilà, moi j'étais spécialiste en ceci et cela, et puis elle m'a dit non, moi je suis chimiste, je suis aussi intéressé à faire une étude pareille, et nous nous sommes mis à faire, nous avons créé ce qu'on appelait le think tank UNIKIN UPEN. Alors c'est au sein de ce think tank là, cette organisation là, que nous avons mené une étude à partir du mois de décembre, parce que nous sommes descendus sur terrain au mois de décembre 2023 pour nous enquérir un peu de la situation, voir ce que nous devrions faire. Arrivé à Delvaux, nous avons trouvé qu'il y avait un ravin, n'est-ce pas, et juste pratiquement en face de la maternité de Delvaux, qui était
devenu un dépotoir des immondices.
Et ce dépotoir dégageait des odeurs, et il y a un arrêt de bus qu'on a surnommé arrêt solo, parce que quand vous y arrivez, il y a toutes sortes d'odeurs qui sortent de ces dépotoirs incontrôlés. Et non seulement qu'il y avait des odeurs, imaginez lorsque on vient de verser toutes sortes de déchets pendant la nuit ou même pendant la journée, il y a des poussières, ainsi de suite, toutes les substances chimiques qui en découlent.
Et lors de la décomposition, ça dégage une odeur insupportable.
Voilà. Alors cela nous avait beaucoup intrigué. Et nous nous sommes dit, il faut en tout cas que nous puissions faire une enquête. Nous avons fait une enquête. L'enquête consistait à fabriquer des capteurs que nous-mêmes nous avons fabriqués, des capteurs de la poussière, parce que nous devrions savoir ce qui est dans l'air et ce qui retombe sur la population, les résidents de là. Et nous devons connaître aussi les particules, n'est-ce pas, qui sont dans l'air, issues de ce dépotoir incontrôlé. Nous avons utilisé une méthode scientifique. Nous avons choisi des sites qui sont censés nous donner des indications pour savoir comment la population est exposée à ces polluants. Alors, 5 sites ont été choisis. Le premier, c'était la maison d'une résidente, Mère Pemba, que j'ai saluée en passant. Le deuxième était au niveau de la maternité. Et puis, le troisième, c'était au niveau de l'école Bobo Koli. Le quatrième au niveau de la police. Et voilà. Donc, nous avons fait ce monitoring en 2 temps. Le premier temps, c'était d'abord les capteurs de poussière qui étaient dans ces 5 sites-là.
Dans les rayons de ces ravins.
Dans ce rayon de ces ravins. Et puis les 3, l'autre monitoring actif que nous avons fait dans une résidence privée à la maternité et dans les écoles. À l'école Bobo Koli et maternité Binza. Alors les résultats nous ont montré que maternité Binza était extrêmement exposée à cette pollution, à ces polluants qui affectaient même les nouveau-nés au niveau des couveuses. Et ça, c'était choquant. Les résultats, nous les avons présentés le 7 septembre 2024. Au niveau de la CENCO, lors d'une réunion organisée par cette organisation, nous avons présenté les résultats et quelques agents, parce que nous avons invité plusieurs personnes, ministère de l'Environnement, ministère de la Santé et tout ça. Alors, les échos sont partis à partir de là pour dire que vraiment, ne fût-ce que cet échantillon-là prouvait que la qualité de l'air au niveau de Kinshasa en général, n'était pas bonne, et en particulier au niveau de Delvaux.
C'est ce qui a poussé les autorités, notamment le ministère de la Santé publique et Hygiène, à mettre en place ces groupes de travail santé-environnement.
Effectivement, c'est cela, parce que, vous savez, avec les dirigeants, les politiciens, il faut des évidences. Et déjà, non seulement que nous avons seulement travaillé sur la qualité de l'air, nous avons travaillé aussi la qualité des eaux. Parce que c'est polluant, n'est-ce pas? Et il dégage certaines substances qui vont en aval, détruire aussi la qualité, détériorer la qualité des eaux. Alors, nous avons présenté toutes ces évidences et c'est ainsi que le ministère de la Santé a bien voulu mettre en place une task force qui devrait s'occuper, n'est-ce pas, de la situation de la santé de la population et de l'environnement dans lequel ils vivent. Parce que les deux sont liés. intimement.
Ce groupe de travail a été mis en place, je me rappelle, depuis les mois d'avril dernier. Les problèmes sur le terrain, ils persistent. Il y a des sites d'immondices un peu partout à travers la ville. Concernant la pollution de l'air ici à Kinshasa, vous allez travailler de quelle manière? Parce oui. qu'en même temps, on ne cesse d'importer le véhicule de seconde main. En même temps, on n'a pas encore vraiment harmonisé les centres de collecte des déchets, les tri et autres.
Oui, laissez-moi vous dire que le problème de la qualité de l'air est un problème mondial, n'est-ce pas? Et c'est tout le monde entier qui est concerné par la qualité de l'air, du fait que les activités de l'homme polluent à tout instant. Mais pour ce qui est de notre pays, je crois que depuis 2002, en Afrique du Sud, il y a eu la COP, je crois, 15, je crois. Et à la COP, on a trouvé des objectifs de développement durable. Et parmi ces objectifs de développement durable, il y a, n'est-ce pas, la mise en place d'un système d'amélioration des conditions de vie humaines. Alors, chez nous, c'est comme si on n'est pas encore au point sur ce point-là, parce que vous avez parlé de véhicules, n'est-ce pas, vétustes, mais ce n'est pas seulement les véhicules vétustes, il y a aussi les réseaux routiers. Parce que une chose est d'avoir de bons véhicules, mais quand le réseau routier n'est pas suffisant pour permettre une fluidité du trafic, vous allez toujours avoir. Alors, dans notre cas, dans nos conditions, non seulement que nous n'avons pas un bon réseau routier, je parle de Kinshasa, et nous avons aussi des véhicules vétustes qui ne sont pas vraiment bien entretenus, et ça, c'est vraiment la première source de pollution, n'est-ce pas, au niveau de la ville de Kinshasa. La deuxième, ce sont les déchets. Nous n'avons pas beaucoup d'industrie ici, vous en doutez, mais les déchets constituent, n'est-ce pas, une seconde source de pollution, parce que ces
déchets... Les déchets plastiques, métalliques, tout ça. Les déchets dégradables, voilà. Et puis tout s'est mis ensemble.
Tout s'est mis ensemble, et lorsqu'ils putréfient, ils se décomposent, ils dégagent des odeurs, ils dégagent des particules qui sont vraiment nocifs à la... les particules sont nocives à la santé humaine.
Professeur Moulouma, avant de poursuivre notre entretien, nous allons partir au standard parce que c'est une émission à téléphone ouvert, le temps d'écouter les auditeurs, et puis nous allons retourner ici au studio pour poursuivre notre interview. Quel est l'impact de la pollution de l'air dans les zones urbaines de la République démocratique du Congo, spécialement à Kinshasa? Nous en parlons dans cette seconde partie du magazine Okapi Service. Et chers auditeurs, auditrices, si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à nous appeler pour intervenir en direct au numéro 099-506-9941. Appelez-nous, nous allons vous rappeler pour intervenir en direct.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioKapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radioKapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion.
Le premier auditeur, il prend la parole depuis la ville de Kisangani. Nous sommes dans la Tchopo. Il s'appelle Saïdi. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Merci, cher Tati. Bonjour, bonjour à l'invité ainsi qu'auditrice auditeur de la Radio Capi.
Bonjour.
Bonjour.
Voilà. Merci. Cher Tati, la pollution de l'air dans les zones urbaines en RDC représente aujourd'hui une menace sérieuse pour la santé publique. Alimentée par les trafics routiers, les groupes électrogènes, les industries et les brillages des déchets. Cher Tati, je dois économiser le temps. Je dois me concentrer uniquement sur les questions pour orienter correctement la réflexion de cette thématique.
C'est gentil de votre part, allez-y.
La première question, quel mécanisme de sensibilisation serait le plus efficace pour changer le comportement des citoyens?
Mécanisme de sensibilisation.
La deuxième question, les populations urbaines sont-elles suffisamment informées des risques liés à la pollution atmosphérique? Troisième question. Quelles sont les limites des politiques urbaines actuelles en matière de gestion de l'air? Troisième, autre question, pardon, quatrième, pourquoi les mesures de contrôle environnemental restent-elles difficiles à appliquer en RDC? Autre question avant de chuter. Quels groupes de population sont les plus vulnérables face à cette pollution, pollution? Et pour chuter, cher, cher Tati, quels sont les polluants atmosphériques les plus les plus présents dans les villes congolaises et pourquoi? Je me limite à ce niveau-là, cher Tati.
Merci beaucoup, Monsieur Blaise, et rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani, dans la Tchopo, que vous intervenez. Excellente journée. Emilan Mwanda, vous êtes à Bukavu, au sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati, et bonjour à l'invité, à tous les invités de la radio Kapi, ainsi que à toute l'équipe qui vous accompagne. Je sais très bien que la pollution de l'environnement, Monsieur Tati, actuellement présente un danger très, très grave. Et pourquoi moi je dis, surtout chez nous ici, nous sommes en train de vivre un phénomène inédit avec même d'abord des pluies torrentielles et des pluies abondantes. Avec les pluies qui tombent tous les jours, surtout dans les villes à forte agglomération, cause en sorte que l'environnement puisse être pollué davantage. Parce que la pollution d'environnement, la pollution plutôt de l'air à RDC, notamment à Kinshasa, est une menace silencieuse, mais grave pour la santé publique. Elle appelle des politiques urgentes de contrôle des émissions, de gestion des déchets et de promotion d'énergie propre pour protéger la population urbaine. Maintenant, je vais poser certaines questions, si vous me les permettez, à l'invité.
Allez-y, allez-y.
Monsieur Tati. Oui, oui. La première question est de savoir à ce sujet, quels sont les problèmes concrets que pose la pollution de l'air en RDC en ce jour? Deuxième question, Monsieur Tati, quels sont les moyens qu'on peut utiliser pour éviter la pollution d'environnement, surtout dans le milieu à forte agglomération? Et troisième question, qu'est-ce qu'il faut faire sur le domaine des transports? Parce que je crois que dans les pays les plus avancés, on n'utilise plus des véhicules qui donnent de gaz. Il y a déjà, on est en train même de supprimer des véhicules et qui utilisent de carburant. Alors, sur le domaine des transports, nous qui ne sommes pas encore là-bas, qu'est-ce que fait concrètement le gouvernement congolais pour éviter le pire dans l'avenir à ce qui concerne la pollution de l'air? Parce que la RDC est un pays solution, et si le pays aussi est exposé à des risques très graves de pollution de l'air, nous risquons d'assister, nous risquons de fuir même ce monde et de vouloir vivre au ciel.
Merci beaucoup, Monsieur Emilan Mwanda, et tenons à rappeler que c'est depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu, que vous avez pris la parole. Cette fois-ci, on retourne à Kisangani pour donner la parole à Monsieur Thomas. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Tati, et bonjour à Bukavu, à tous les auditeurs de la radio.
Bonjour.
Monsieur Tati, je m'invite directement aux questions. La première question, c'est par rapport aux effets, je ne sais pas pour dire quels sont les effets de la pollution de l'air sur la santé des populations urbaines. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport au respect de la loi, mais également des politiques qu'il faut pouvoir mettre en place, qu'on devrait mettre en place, je ne sais pas. Quelle politique ou réglementation sont mises en place pour contrôler la qualité de l'air? La deuxième question que l'invité pourra me donner. La troisième question, j'ai toujours dit un principe, mieux vaut prévenir que guérir. Comment on pourra améliorer la surveillance et la gestion de la qualité de l'air en RDC? En RDC, une autre question, Parce qu'il y a aussi les industries qui ont une part de responsabilité également. Je ne sais pas quel est le, qu'est-ce que les députés pourraient nous donner quant à ça, de la responsabilité des industries, également des transports. Nous avons déménagé dans la détériorisation de la qualité de l'air. Quel est le rôle la plupart des députés nous donner par rapport aux industries? Et je vais citer par ceci. Quelle stratégie communautaire citoyenne peut être contribuée pour limiter l'exposition à la pollution de l'air, surtout dans nos villes? Parce que nous aussi, en tant que citoyens, en tant que population, on a une part de responsabilité. Est-ce qu'on pourra jouer comme rôle pour être dans les villes de limiter en tout cas l'exposition à la pollution dans nos grandes villes? C'est pour ça quelques préoccupations que vous avez à l'époque.
Merci beaucoup, Monsieur Thomas, et nous rappelons que c'est depuis la ville de Kisangani que vous avez pris la parole. Professeur, comment répondez-vous à nos auditeurs? Nous allons commencer par Monsieur Saïdi, qui a ajouté d'autres facteurs hein, qui sont à la base de l'altération de la qualité de l'air. Il a notamment cité des groupes électrogènes qu'on utilise parce que on n'a pas assez. La couverture en électricité n'est pas assez intéressante à travers le pays. Et les brûlages, les feux de brousse et autres, les gens qui brûlent des déchets ménagers et autres.
Effectivement, l'auditeur a bien fait de nous rappeler cela, mais nous n'avons pas voulu parler de cela parce que ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Exactement, nous avons un problème d'énergie, j'allais en venir après, mais pour l'instant, c'est d'abord le trafic routier, n'est-ce pas, qui est vraiment à la base de la pollution dans les milieux urbains. Et puis, regardez ce que nous avons comme nombre de motos sur nos routes. Et puis, j'ai fait aussi allusion à l'exécuté, n'est-ce pas, de notre réseau routier qui ne permet pas, n'est-ce pas, la circulation aisée des véhicules. Et ça, ce sont des facteurs vraiment importants. Quand on en vient au niveau de l'énergie, n'est-ce pas, et l'utilisation de produits fossiles, n'est-ce pas, du pétrole ou du mazout pour l'électrification au niveau de maisons. Bon, ça, ce sont des cas un peu sporadiques parce que ce n'est pas tout le monde qui a un groupe électrogène. Lorsque nous faisons la sommation, n'est-ce pas, sur la consommation de ces groupes électrogènes, et c'est d'ailleurs ce n'est pas fait pour toute la journée, c'est juste pour à des moments un peu où l'électricité manque à la maison, ce n'est pas tout le monde. Donc il a bien fait de le dire, c'est parmi aussi les sources de pollution. Alors il y a aussi l'utilisation de la braise, n'est-ce pas, qui contribue, n'est-ce pas, au dégagement de polluants qui sont nocifs, n'est-ce pas, au niveau de la santé de la population. Donc c'est parmi les recommandations que nous pourrions faire en tant que spécialistes dans cette matière-là.
Il a également fait allusion au problème de la sensibilisation de la population parce que elle n'est presque pas informée sur les conséquences liées à la pollution de l'air.
Oui, effectivement, il a raison parce que vous savez, jusque-là, nous n'avons pas une loi claire et nous n'avons pas de structure claire qui définit, n'est-ce pas, le rôle dans la surveillance de la qualité de l'air. Pour l'instant, la population n'est pas vraiment informée, et même au niveau de nos institutions supérieures, des institutions secondaires, la pollution de l'air n'est pas encore ancrée dans
les programmes. Compte.
Voilà. Donc si, je crois que les efforts, il y a un auditeur qui a parlé de moyens, comment nous pouvons faire. Je crois que la première des choses, c'est chercher à informer la population sur les dangers. Les dangers qui sont que la pollution de l'air, n'est-ce pas, est à la base de beaucoup de maladies. Des maladies cardiovasculaires, des maladies pulmonaires, des maladies de cécité des yeux, n'est-ce pas, il y a plusieurs maladies, n'est-ce pas, qui proviennent de la qualité de la mauvaise qualité de l'air. Donc il y a même des problèmes des reins, n'est-ce pas, lorsque il y a des métaux lourds qui se présentent dans l'air, comme dans le cas de Delvaux, nous avons trouvé dans les analyses, n'est-ce pas,
des échantillons prélevés,
il y avait du cas de présence du plomb et du cadmium. Alors, voyez, ces produits-là, ce sont des produits dangereux pour la santé. Ça, ils causent les cancers, ils causent aussi des problèmes des reins. Donc, la pollution de l'air est quelque chose qu'il faut éviter et sa qualité doit être, n'est-ce pas, améliorée en prenant en compte certaines dispositions, n'est-ce pas, qui premièrement doivent être taxées sur l'information, et en deuxième lieu le gouvernement doit prendre disons, des mesures, n'est-ce pas, mettre en place une loi qui détermine les normes acceptables pour ceux-là qui polluent. Parce que on ne pouvons pas accepter qu'une personne, une industrie, un véhicule ou un engin puisse polluer au-delà de ce qui est tolérable. Alors, il y a ces normes-là qu'il faut éditer. Il y a aussi les émissions standards. Ça, les émissions standards, là, nous parlons des industries, n'est-ce pas, qui doivent se conformer à une certaine quantité de polluants, n'est-ce pas, qu'ils doivent émettre pendant une journée.
Et parce que concernant les émissions des entreprises, par exemple, alors, à certains moments, quand vous passez sur poids lourd, là où il y a des brasseries et des ports privés, ça sent très mauvais sur les tronçons, là.
Effectivement, ça sent mauvais parce que ces industriels, n'est-ce pas, n'ont pas encore des émissions standards qui sont requises pour que leurs activités puissent continuer. Parce qu'il y a un principe pollueur-payeur. Bon, mais jusque-là, je ne sais pas encore comment cela se fait, mais nous sommes dans la task force, nous sommes voués, n'est-ce pas, à mettre en place ces mécanismes où nous informerons d'abord la population. Ça, c'est la première stratégie. Nous allons informer les populations sur les dangers de la pollution. Au niveau de la maison, d'abord, à l'intérieur de la maison, parce que jusque-là, compte tenu du fait que nous n'avons pas d'électricité, il y a des gens qui préparent encore dans leur maison en utilisant le bois de chauffe.
La braise ou le bois de chauffe.
Donc, vous voyez, ça, c'est on s'expose déjà. Lorsque on est en face d'une fumée quelconque, dégagée par des engins, prenons les véhicules ou bien les groupes électrogènes, il faut savoir que cette pollution-là, lorsque nous la
inhalons,
cette fumée, nous sommes en train de nous exposer à des maladies. La maladie ne peut pas être juste immédiate, mais il y a ce qu'on appelle des effets cumulés. Des effets cumulés de substances chimiques respirées, inhalées pendant un bon bout de temps, peuvent déclencher, n'est-ce pas, des mécanismes de maladie dans l'organisme humain.
On va retourner au standard, professeur, pour donner la parole à Maître Omar. Lui, il prend la parole ici au niveau de la ville de Kinshasa. Maître, bonjour.
Maître. Et bonjour à monsieur le professeur.
Bonjour, maître.
Merci, monsieur Tatu du verbe que vous m'adjugez. Avant de proposer ma solution, je pose mes deux questions. La première, cher professeur, est-ce qu'il existe un appareil pour évaluer la qualité de l'air? Parce qu'en matière de pollution sonore, ce qu'on appelle les sonomètres, ça permet aux gens d'évaluer si les sons respectent les décibels. Parce que c'est bien de dire l'air est pollué, mais que nous, qui ne sommes pas experts, est-ce qu'il y a un appareil comme c'est le cas pour le son? Deuxième question. Les études ont été faites par votre commission, nous en félicitons, mais qu'est-ce qui en découle? Quelles sont les causes que vous avez pu évaluer et quelles solutions vous proposez pour que l'air soit propre? Comme nous l'avons toujours dit, l'air est un des compartiments. Je chute rapidement avec ma proposition, monsieur le professeur. Vous l'avez dit quand vous parliez qu'il n'y a pas de loi. Non, moi je vous contredis en disant que plusieurs lois existent, à commencer par notre loi fondamentale. L'article 47 dit que tout Congolais a droit à la santé. 53 dit tout Congolais a droit à un environnement sain. Et cette loi fondamentale est complétée par la loi de 2011, qui a beaucoup de dispositions, qui parle même de la pollution de l'air, qui la définit, et qui met même en place des sanctions pour ceux qui polluent.
Maître, il y a la loi de 2023 qui complète. Il y a cependant un souci sur les mécanismes d'application de cette réglementation, maître. Ça, il faut reconnaître.
Exactement. D'accord. Voilà, vous me précédez, monsieur Tati. C'est pour dire au professeur, les textes tant internes qu'internationaux existent, on n'en respecte pas. Autre chose, le professeur a parlé de causes, mais il a oublié la fumée de cigarettes. C'est parmi les facteurs majeurs. Une circulaire a été votée, je crois, en 2011, il connaît, qui interdit de fumer en public.
En public, oui.
Mais au jour le jour, mais dans le bus, dans les taxis, partout, la loi existe. Il y a même une déclaration internationale que nous avons ratifiée. Il a parlé des voitures, je suis d'accord. Mais pourquoi ne pas parler des brassicoles? Je ne les cite pas, vous connaissez les deux grandes brassicoles. Il a été démontré qu'ils polluent à la fois l'air et l'eau. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Les incinérations des citoyens. Dans nos quartiers, nous brûlons le déchet. Personne ne sanctionne. Voilà pourquoi moi je pense que la solution passe par trois lettres. SSV. S comme sanction, monsieur le professeur. La loi sur l'environnement a prévu des sanctions au niveau de l'État. Lorsqu'un citoyen tombe malade par rapport à l'irresponsabilité de l'État, l'État doit être responsable. Lorsque les citoyens contribuent, on les sanctionne. Deuxième, est sensibilisation au niveau de la famille, au niveau des ONG, au niveau des partis politiques. Et enfin, la vulgarisation. On dit toujours aux gens, ni n'est censé ignorer la loi. Mais la loi n'est pas un piège, c'est un outil de protection. Ces principes-là de tempérament, la loi doit être publique. Il faut la rendre publique à travers une publicité. Mais ça passe comme l'émission comme ça. Mais qu'est-ce qu'on d'être médias même publics? Au niveau de l'école, est-ce qu'il y a un cours sur l'environnement? Au niveau des universités? Donc les problèmes se posent à ces niveaux. Je suis d'accord avec les professeurs, je soutiens. Mais je pense, cher professeur, dans votre combat, ajoutez la sanction comme mécanisme efficace. La sensibilisation, mais aussi la vulgarisation. On a des lois écrites en français difficiles. Comment le maraîcher comprendront, les villageois comprendront comment? Une loi n'a de sens que si elle est publique, elle est compréhensible et elle est lisible. Combien de Congolais comprennent le français qui est dans le texte congolais? Il faut qu'il y ait des sketchs, il faut qu'il y ait des émissions pédagogiques, il faut qu'il y ait des lois qui Congo, en Chiluba, il faut qu'il y ait des relais dans des villages. Voilà à mon avis la solution. Sinon, on fera des émissions, on traînera des discours et sur terrain, nous mourrons parce que l'air est pollué.
Merci beaucoup, Monsieur Tati. Merci beaucoup, Maître Omar. Et rappelons que c'est depuis la ville de Kinshasa que vous avez pris la parole. Je reviens vers vous, professeur. Comment répondez-vous aux préoccupations de Maître Omar?
Maître Omar a pleinement raison, mais je voudrais lui dire ceci. Je n'ai pas parlé de l'inexistence des textes. Les textes sont là, mais nous n'avons pas de normes. Nous n'avons pas de normes sur la qualité de l'air ambiant. Il existe des normes sur les miniers, n'est-ce pas? Et ces normes, nous, en tant que spécialistes, nous pensons qu'elles doivent être revues.
Et les normes doivent être en adéquation avec la loi.
Les normes doivent être en adéquation avec la loi, effectivement. Ce qu'il dit, c'est vrai. La loi fondamentale nous dit que nous avons droit à un environnement sain, n'est-ce pas? Et puis, il y a la...
Ça, c'est générique.
Oui, ça, c'est générique.
Si les normes ne sont pas établies, c'est à quel hauteur, mais c'est intolérable, on ne connaît pas.
C'est au niveau, n'est-ce pas, de l'exécution de ces lois, n'est-ce pas, où se pose le problème. Alors, pour répondre à sa question, il existe effectivement plusieurs appareils de mesure de la qualité de l'air. Plusieurs. Ce qui nous est arrivé, ce que nous avons fait à Delvaux, nous avons acheté de nous-mêmes
des capteurs
qui nous ont donné les valeurs que nous avons pu publier, n'est-ce pas, au niveau de notre conférence. Alors, quels sont qu'est-ce qui en découle? Le fait que je sois avec vous, que je sois coordonnateur adjoint de la task force au niveau du ministère de la Santé, c'est que cette étude a donné, n'est-ce pas, naissance à un groupe de travail qui est là maintenant pour la sensibilisation, pour l'information et pour
la rédaction des normes,
et finalement à des sanctions. Parce que ces lois existaient, mais elles n'étaient pas actives. Nous sommes en train maintenant de les activer pour chercher à ce que tous les Congolais puissent être au courant du fait que lorsque vous polluez, vous serez réprimandé quelque part, vous serez sanctionné. Que ça soit les véhicules, que ça soit les industries, que ça soit ceux qui brûlent les pneus au niveau de rue, ainsi de suite. Donc tout le monde doit être, n'est-ce pas, informé. Alors pour cela, il y a des stratégies de communication. Nous avons une cellule de communication. Nous allons nous y atteler. Il faut pas oublier que nous sommes créés seulement en avril de cette année et que nous nous employons, n'est-ce pas, à mettre en place des stratégies. Nous avons des PAO, des plans d'action opérationnels qui nécessitent, n'est-ce pas, des moyens pour que nous puissions être effectifs sur le terrain. Autre question, la fumée des cigarettes. Évidemment, si nous regardons la quantité, n'est-ce pas, le nombre de fumeurs, ça, nous négligeons. Mais au moins, ce qu'il a dit, c'est important parce que la fumée des cigarettes, elle devient très nocive lorsque vous fumez dans un endroit public. Dans un milieu public, il est défendu nécessairement de ne pas fumer. Là, la fumée, une histoire, constitue un danger pour ceux
pour qui fument, pour humaine, la santé humaine.
Oui, mais en termes de quantité, le nombre de fumeurs, d'ailleurs, il y a beaucoup de publicité contre la fumée, tout ça, les fumeurs. Je crois que, bon, on ne peut pas tellement...
Et la réglementation existe, donc on a qu'à appliquer cette réglementation.
Voilà, la réglementation existe. Dans les bus, moi, parfois, je suis étonné de voir qu'un chauffeur, un conducteur dans un bus fume pendant qu'il y a...
Il y a d'autres passagers, il y a des passagers clients à l'intérieur.
Personnellement, j'ai toujours demandé à ce que celui qui fume dans le bus puisse arrêter. Hein, en nous donnant un peu d'explication, tout ça, il y a quand même des gens qui comprennent. Mais d'autres, ils ne comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais vu des sanctions arriver là-dessus. Donc, les appareils existent de plus simples au plus sophistiqués. Il y a deux sortes d'appareils. Il y a des appareils qui peuvent vous donner une concentration de polluants, ponctuelle au même moment, et d'autres qui nécessitent des analyses au laboratoire. Donc, les appareils existent. Je crois qu'avec le temps, la task force se munira de ces appareils-là pour aller dans les industries, faire des enquêtes, voir combien les industries polluent et comment nous pouvons, disons, aider le gouvernement à mettre, n'est-ce pas, la main sur ceux qui dépassent les seuils requis. Il y a un auditeur qui m'a posé la question de savoir quels sont les problèmes à ces jours. Les problèmes à ces jours, c'est que d'abord, la population congolaise en général n'est pas informée. Ça, c'est la première chose. On fait des choses, on brûle au coin des rues, hein, les déchets, nous avons parlé ici, les déchets, c'est le deuxième, n'est-ce pas, le deuxième... C'est la deuxième source de pollution. Oui.
Et on voit même dans les deuils, professeur, des jeunes brûler un pneu pour s'échauffer un peu, ils se mettent à côté là, savent pas que donc, c'est un dossier.
Ça, ce sont des pratiques qui doivent cesser. Troisièmement, ce que je voudrais dire est que le Congolais doit considérer que nous avons un pays vraiment miraculeux. Il ne faut pas que nous puissions couper les arbres, parce que les arbres jouent un très grand rôle dans la qualité de l'air, dans la pollution, n'est-ce pas? Les arbres,
purification
de l'air. Alors, lorsqu'on coupe un arbre pour pétrir le pain et tout le vendre pour avoir de l'argent afin qu'on puisse pétrir le pain, ce n'est pas bon. Nous devons avoir cette, n'est-ce pas, habitude de planter les arbres. Nous avons perdu vraiment ces habitudes-là. Il faudrait que nous puissions retourner à la bonne habitude de planter des arbres dans notre quartier. Et ça, c'est un problème. Quelqu'un m'a posé la question de savoir quel est le problème. Le problème, c'est d'abord l'urbanisation. Vous savez, dans une ville comme Kinshasa, une ville, qui était destinée à un certain nombre de 300 ou 600 000 habitants.
On parle de 200 000 habitants au départ.
Aujourd'hui, la démographie de la ville de Kinshasa fait que...
On parle de 20 millions, 25 millions.
Ah, voilà, 25 millions sur une superficie de 2 000 kilomètres carrés, alors que 7 000 kilomètres carrés restent inhabités. Il y a ce problème de proximité. Et il y a aussi ce problème de
promiscuité.
Et il y a aussi ce problème de circulation de la qualité, disons, de l'air. Vous voyez, on est entassé en un seul endroit,
confiné.
Et lorsqu'il y a une source de pollution quelque part, la pollution ne se disperse pas comme il se doit. Un autre facteur, quatrième facteur, c'est que nous sommes dans une zone de calme équatorial. La pollution, toutes les pollutions que nous émettons ne se dispersent pas. Vous voyez?
Ça se concentre au même endroit.
Ça se concentre au même moment, au même endroit, parce que nous n'avons pas de mécanisme, n'est-ce pas, de dispersion qui permette à ce que ces polluants puissent être remportés un peu plus loin.
Notamment les reboisements, s'il y avait les arbres, des jardins écologiques dans des villes.
Voilà, nous pouvions sentir cela. Mais aujourd'hui, même la chaleur qui est ressentie au niveau de Kinshasa à un certain moment,
c'est insupportable
à cause de la présence des aérosols dans l'air. Alors, les aérosols ont cette facilité, n'est-ce pas, de retourner, de faire la diffusion de la lumière, de la chaleur qui redescend vers la terre et puis que la terre qui les réfléchit encore. Il y a ce qu'on appelle effet de serre. Alors cette température là, c'est dû au fait que l'air n'est pas pur et que nous n'avons pas, n'est-ce pas, un mécanisme physique de dispersion
pour atténuer les effets de cette pollution là.
Alors les arbres sont très importants et l'urbanisation, la construction des bâtiments est vraiment très importante dans notre ville. Il ne faudrait pas que les bâtiments puissent être construits d'une manière désordonnée.
Chacun à sa façon.
Oui, parce que, je vous en conviens à observer un peu une fois, vous savez, devant un grand bâtiment, n'est-ce pas, l'air vient et il tourne, n'est-ce pas, en tourbillon, oui. Il ne sait pas où aller, finalement il se dépose. Donc, l'urbanisme doit être un facteur clé. En principe, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Urbanisme, aménagement
des affaires foncières et autres, doivent travailler en synergie.
Travailler en synergie pour que nous ne puissions pas arriver à des situations où nous avons des polluants, n'est-ce pas, qui sont engouffrés dans nos résidences, qui ne savent pas où aller parce que les maisons ont été construites de manière à ne pas faciliter le
l'aération,
ainsi de suite.
Oui.
Et aussi, la pollution, c'est en dehors de la maison, mais aussi c'est dans nos maisons. La construction des maisons, je vois, et vraiment c'est pénible de le constater. Il y a des maisons sans fenêtres, par exemple. Nous sommes dans une ville, ce sont des huttes, et même les fenêtres ne sont pas adaptées aux dimensions convenable pour qu'il puisse y avoir des aérations, disons, une aération facile.
Oui, par nombre d'habitants aussi de la maison et autres.
Effectivement. Alors, et puis nous n'avons pas
dans
beaucoup.
Dans un ménage, une maison de chambre salon ou de chambre salon,
oui.
C'est habité par 6 ou 8 personnes.
Effectivement. Donc, un auditeur me posait aussi la question de savoir quelles sont les stratégies communautaires. J'en ai parlé, n'est-ce pas? Les stratégies communautaires, communautaires veulent seulement que l'on puisse prendre conscience de ce que nous vivons. Nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas être exposés à des quantités énormes de polluants qui nous causent des problèmes. Je vous dis que le problème de la qualité de l'air, selon l'OMS, n'est-ce pas? Dans le monde entier, c'est 7 millions de personnes qui perdent leur vie chaque année. 7 millions. Et ici, au Congo, nous avons un pourcentage de 42%, n'est-ce pas, de vieillards, que nous n'avons pas beaucoup, et de jeunes gens. Donc, l'âge de vulnérabilité, c'est entre 0 et 5 ans. Ces pauvres jeunes, âgés de 0 à 5 ans, sont exposés à des quantité énorme de polluants qui leur causent des problèmes d'asthme, ainsi de suite, et ils meurent. Donc, nous, si la communauté peut prendre conscience du fait que la pollution de l'air affecte la santé, il faut commencer à bannir tout ce qui est comme activité qui pollue, qui dégage des fumées dans l'atmosphère. L'incinération des déchets, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir dans notre société. Il faudrait que nous puissions avoir des dépotoirs publics contrôlés, le ramassage régulier des déchets, et puis même leur triage,
le recyclage,
ainsi de suite.
Oui.
Ça pourra éviter.
Et ça va aussi générer de l'emploi, professeur.
Ça va générer de l'emploi.
Et des revenus.
Donc, nos gouvernants ne peuvent pas manquer
des ressources
pour financer toutes
les circuits de ces réseaux-là.
Circulaires.
On va retourner au standard, permettez-moi, parce que les temps s'égrènent vite. On donne la parole à l'auditeur de Mandaka. Il s'appelle Papy. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous.
Bonjour, M. Tati. Bonjour à professeur et ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bonjour.
Je suis vraiment ému, M. Tati, du sujet du jour. Il est vraiment intéressant, de manière qu'aujourd'hui, l'air nous cause beaucoup de problèmes de santé. La pollution de l'air aujourd'hui est à la base de beaucoup de dégâts sur les plans sanitaires. Vous allez constater avec moi ici à Mandaka, M. Tatu, il y a des quartiers qui ont été érigés où les gens ont quitté la ville, les gens se sont fatigués de payer le loyer, ils ont acheté de l'air. C'est un de nouveaux quartiers ici à Mandaka.
Au-delà de Air Congo. Ou là, l'aéroport de Mandaka, Air Congo.
C'est comme si vous êtes Mandaka, monsieur Tati. Donc,
nous venons de temps en temps travailler à Mandaka. Aussi, on a été à l'ISP pour sensibiliser sur Ebola. Donc, je connais bien la ville.
Ah. Ok. Donc, moi, je vous dirais, les quartiers, moi, je reste dans mon quartier. Je suis entouré. Je sais que les professeurs vont devoir peut-être m'aider, m'orienter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis entouré de latrines des voisins. 4 points cardinaux. Sont entourés, moi, je suis au milieu de la traîne des voisins. Je ne sais pas comment vivre. Des fois-ci, ils sont venus pour peut-être vider de la traîne. Moi, je suis exposé et ma famille.
La prime, donc, comment moi, je n'ai pas compris.
De latrine.
Ah, des latrines, des latrines. Ok, d'accord. Ok.
Oui, ok. Donc, je suis entouré au nord, au sud, à l'est de ma parcelle.
Par les toilettes.
Plein de latrines. Là, voilà,
les toilettes. Qui est mal construite, hein.
On évitait mal construite. Alors là, pour aller trop vite dans les petits soucis, j'aimerais demander à l'invité, la première question serait de savoir quel mécanisme mettre en place pour prévenir la population dans des gaz plutôt à effet de serre. Que l'invité puisse nous éclairer là-dessus. Et de deux, c'est-à-dire, j'aimerais demander quel danger qui va découler aux gens, par exemple, je vais donner l'exemple de moi-même, qui reste au milieu des palettes des voisins. Quel danger il découle avec ma famille et comment en prévenir? C'est de deux. Et de trois, est-ce que la coupe de bois qui est aujourd'hui une activité peut-être génératrice de revenus du gouvernement en partenariat avec des Chinois et tout, ne peut-il être dans à la base de ces feux?
Vous parlez de l'abattage, de l'abattage des bois sous forme de grumes qui sont importés. D'accord.
Oui, oui. Et dans le même ordre d'idée que moi, je suis de souffrir, je suis de liste de Mbandaka qui travaille sur le développement rural. Je demande au professeur, les gens qui vivent dans les milieux ruraux, qu'est-ce que lui, comme enseignant à l'université, il leur propose? Et la dernière question à lui-même, quelle démarche mène-t-il pour nous ramener la solution auprès du gouvernement? Voilà, moi, c'est que moi, je pouvais intervenir. Merci de m'avoir associé, toute l'équipe de la Radio Capi, ainsi que le professeur. Merci, M. Tati.
Excellente journée dans la ville de Mbandaka, cher Papi. On vous donne la parole, professeur.
Merci beaucoup, l'auditeur de Mbandaka. Il pose le problème des latrines. C'est ce que je disais, que nous devons penser à l'urbanisation de nos villes. On ne peut pas, n'est-ce pas, lotir des terrains, des quartiers.
Et même les toilettes, on les construit selon les normes.
Selon les normes, bien. C'est un problème
de normes. Il suffit pas de mettre un trou et puis une dalle et puis
c'est
tout.
Alors là, c'est vraiment une pollution à ciel ouvert, je dirais. Les latrines dégagent des gaz nocifs, parmi lesquels il y a les oxydes d'azote, n'est-ce pas? Et il y a l'acide sulfureux. HDS, je crois, et je m'excuse un peu, je connais pas très bien cette histoire en français. Bon, alors il y a des gaz nocifs, effectivement. Il y a aussi ce qu'on appelle des gaz, des colves. On appelle ça des composés organiques volatiles qui sortent des toilettes, n'est-ce pas? Et ça, c'est un danger parce que au fur et à mesure que vous inhalez, vous exposez à des ennuis de santé. Alors, la solution que nous pensons apporter au gouvernement, c'est que nous sommes déjà là et nous œuvrons pour le gouvernement. Alors, nous avons parlé d'une panoplie de mesures que nous sommes en train de prendre pour que nous puissions arriver à sensibiliser la population, l'informer, et même au niveau de sketch à la télévision, à la radio, je crois
que... Mais est-ce que vous avez le moyen de votre politique?
Nous avons le moyen de notre politique parce que le gouvernement ne peut pas créer une structure sans lui donner des moyens. Alors les moyens les moyens sont là parce que nous sommes déjà opérationnels.
C'est déjà les ressources humaines.
Voilà, les ressources humaines sont là. Nous sommes une équipe nationale, n'est-ce pas, et beaucoup d'experts dans plusieurs domaines. Donc si le gouvernement acceptait de nous donner ce mandat-là, c'est que le gouvernement va mettre des moyens, met déjà des moyens, mais il faudrait que les moyens soient encore beaucoup plus conséquents parce que le problème est sérieux.
Très sérieux. Donc,
très sérieux. Alors, qu'est-ce qu'il faudra dire encore, je crois, pour l'auditeur de Mbandaka? Je crois qu'il faut qu'on puisse penser à l'urbanisation. Même lorsqu'on va faire le lotissement dans des milieux reculés, au-delà de l'aéroport de Mbandaka, par exemple, il faudrait que le ministère de l'aménagement du territoire
anticipe pour aller lotir et puis établir des normes pour des constructions.
Effectivement, c'est ça que sur lequel nous insistons beaucoup, l'utilisation des normes urbanistiques, normes environnementales, pour essayer d'éviter ce cas de pollution qui est un problème sérieux pour notre population et pour le monde entier. Parce que la pollution n'affecte pas seulement la santé de l'homme, la population, la pollution affecte aussi l'environnement.
Il y a la flore.
Oui, un auditeur a parlé qu'est-ce qu'il faudra faire pour éviter les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est le carbone. Lorsque nous brûlons le braise, nous brûlons le bois de chauffage, nous émettons des gaz à effet de serre qui est principalement le dioxyde de carbone.
Jean-Pierre Moulumba, le temps imparti à l'émission est largement dépassé. Merci d'avoir été avec nous et rappelons que vous êtes coordonnateur adjoint de la Task Force Santé et Environnement et espérons que ce n'est pas la dernière fois parce que le sujet a le goût d'inachevé.
Merci beaucoup.
Excellente journée.
C'est un plaisir de vous voir encore.
Et c'est par ici que prend fin le magazine Okapi Service que j'ai eu l'immense plaisir de les présenter sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Pierre Diassinois a assuré la réalisation et la prise de son. Jonathan Chimanga était à la prise de son. Le rendez-vous est pris pour le lundi prochain. Entre-temps, portez-vous bien et excellent début de week-end.